I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
All this beautiful, le vieux, c'est beau, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis.
Salut.
Salut Arthur.
Salut.
Non.
Alors, non, oh, déjà, l'imitation est vraiment ratée.
Ouais, ça marche
non,
pas du
Arthur,
tout.
Malheureusement, n'est pas avec nous. Il est actuellement en train de discuter avec des gens plus importants.
C'est ça. On voit bien qu'il y a des priorités, comme ni Leonardo DiCaprio, Super sympa, les copains. Vous connaissez-vous des films avec une belle-mère acariâtre et tortionnaire qui maltraite une petite fille en l'enfermant dans un placard alors que tout ce qu'elle souhaite... Eh ben non, c'est protéger sa sœur. Deux sœurs de Kim Ji-woon avec Im Soo-jung et Moon Jun-young, qui ressort en salle grâce à Jokers et notamment à la sortie du dernier film de Kim Ji-woon, Cobweb. Ça tourne à Séoul.
Oui, ça tourne à Séoul. Titre officiel français est Cobweb-ça tourne à Séoul. Ils n'ont pas choisi.
Donc avant de reparler de ce film, Deux sœurs, qui a quand même obtenu le Grand Prix à Gérardmer en 2004 et qui est vraiment un drôle d'objet cinématographique, peut-être qu'il serait bon, Alexis, de revenir un peu sur qui est Kim Ji-woon.
Oui. Alors je vais faire un petit retour succinct parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais pour résumer, pour ceux qui ne sont pas très familiers du cinéma sud-coréen, Kim Ji-woon, il fait partie de ce qu'on pourrait appeler le triumvirat, la sainte trinité du cinéma sud-coréen des années 90 à nos jours, à savoir donc Bong Joon-ho, Park Chan-wook et Kim Ji-woon. Ce qui est intéressant avec Kim Ji-woon, c'est que c'est un cinéaste qui est peut-être un petit peu plus orienté, en tout cas ouvertement orienté vers le genre, puisque d'un film à l'autre, il va alterner entre différents genres très marqués, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Park Chan-wook et de Bong Joon-ho, parce que par exemple, on ne peut pas vraiment dire, on pourrait le dire un peu, mais Parasite est un film de genre, mais qui mélange plusieurs genres et qui constitue son propre univers, sa propre identité. Memories of Murder est un polar, mais qui prend à rebours pas mal de mécaniques du polar. Il en va de même pour Park Chan-wook, qui a quand même fait, par exemple, un film comme Mademoiselle, qui est un film historique, sur une histoire d'amour lesbienne. Donc on n'est pas tout à fait dans ce qu'on appelle vulgairement le cinéma de genre ou le cinéma d'exploitation, alors que Kim Ji-woon, pour le coup, il commence sa carrière avec The Quiet Family, qui est une comédie horrifique, de ce que j'en sais, parce que j'ai pas eu la chance de le rattraper avant cette émission. Et puis, par la suite, il va embrayer donc dans le cinéma de genre. Il va faire du cinéma de gangster avec Bittersweet Life. Il va faire du thriller assez gore et assez énervé avec J'ai rencontré le diable. Il va faire un film d'action aux États-Unis, un vrai survival à l'ancienne avec Arnold Schwarzenegger, pas son meilleur fait d'armes. Il va faire quand même un western avec Le Bon, la Brute et le Cinglé. Et puis, récemment, il est un petit peu sorti de ses clous habituels avec Cobweb, qui est donc le récit d'un cinéaste en train de fabriquer son dernier film. Et puis donc, en 2004, avant de véritablement rentrer dans la partie la plus populaire de sa carrière avec Bittersweet Life, il va faire Deux Sœurs. Et Deux Sœurs, je pense que Sophie nous en parlera mieux que moi, est un film d'horreur, plutôt un film de fantôme, assez typé, assez inspiré du cinéma de fantôme japonais, de la J-horror, comme on dit.
Alors, peut-être avant qu'on aille directement sur le film, en gros, si vous ne connaissez pas encore ou que vous ne connaissez pas bien le cinéma de Kim Ji-woon, ce qui est assez intéressant, tu l'as dit, il y a une grande volatilité, quoi. Il va picorer dans plein de genres différents au gré des films et même à l'intérieur de ses films. Et en gros, il y a Alors moi, je connais pas du tout sa vie, comment il en est venu à faire du cinéma. Donc je vais être un peu dans l'interprétation en regardant son œuvre. Mais moi, ce qui me frappe, c'est quelqu'un qui a un peu trois piliers. Je pense qu'il a manifestement à la fois une formation très académique, très classique de cinéma. On le voit tant dans le, on va dire dans les hommages, dans la manière dont il va construire certains récits, maîtriser plein d'effets de styles différents. C'est un cinéaste qui a une grammaire très très riche. À côté de ça, c'est un technicien assez brillant. On le voit tout connement, encore une fois, à la science notamment du découpage, à la précision technique de ses films, mais aussi ne serait-ce qu'à un film comme Le Dernier Rempart, qui est un film très critiquable et qui a bien des problèmes, mais qui a néanmoins complètement sa patte à bien des endroits et qui est souvent techniquement assez solide, là où la plupart des réalisateurs asiatiques en général qui ont été à Hollywood se sont quand même fait squeezer, écraser et ont rarement pu, ne serait-ce que même assurer, j'ai envie de dire, la bonne qualité technique de leur film. Et enfin, on sent qu'il y a quand même très souvent chez lui aussi une propension à ce qu'on pourrait appeler le gros partage en cacahuètes sa mère. mais je veux dire, Le Bon, la Brute et Le Cinglé, c'est n'importe quoi. Dr. Brain, qui est une série qui est sur Apple TV, si je dis pas de conneries.
Je crois, oui.
Qui est imparfaite aussi, mais c'est une série qui va très loin dans certaines thématiques, qui est complètement cramée du bulbe. Et on le verra aussi, il y a plein de choses comme ça dans Deux Sœurs. Ice Sauce the Devil, c'est quand même une manière de retourner comme un gant le genre du film de serial killer qui, à l'époque, on est bien après Seven, qui arrivait vraiment en état de mort cérébrale, hein, où en gros, la seule chose que savait faire à ce moment-là le cinéma américain quand il y avait une histoire de serial killer, c'était demander à Morgan Freeman de se doper un peu pour pouvoir marcher trois scènes et dire pas facile. Et lui va retourner ça complètement, mais avec un truc complètement déviant, extrême jusqu'au boutiste. Et donc voilà, il est capable d'être à la fois extrêmement fin connaisseur de l'histoire du cinéma, extrêmement brillant dans les techniques qu'il met en application et assez anarchiste, anarchique ou fou furieux dans certains de ses récits. Ça fait un mélange qui est quand même très, assez à part et qui, je trouve, est particulièrement présent dans Deux Sœurs.
Ouais, je trouve que Deux Sœurs, c'est un film assez à la fois assez unique et en même temps qui sait piocher, comme tu l'as dit, des influences un peu partout. C'est assez intéressant où ça se situe. Donc on est en 2003 et il faut savoir que vraiment pour moi le cinéma du début des années 2000, particulièrement en horreur, il y a un changement qui s'est passé. On parle souvent du gap, du passage à l'an 2000 pour certains films, notamment sur le questionnement de la réalité, et il y a pas mal de films en 99 qui vont le questionner, pas forcément dans le genre horrifique, mais en tout cas dans le genre. On va avoir des films par exemple comme Sixième Sens, on va avoir des films comme Matrix, on va avoir des films donc un peu avant, mais comme The Truman Show, comme Magnolia. En fait, on va avoir pas mal de
films. Fight Club,
évidemment, qui vont questionner et qui vont, via des effets de mise en scène ou des jeux avec les effets spéciaux, commencer à modifier la réalité directement pour le spectateur ou à modifier la perception que les personnages vont avoir de la réalité. Donc ça, c'est hyper important. Et dans le cinéma d'horreur, ça se ressent. Là où c'est intéressant avec Deux Sœurs, c'est que pour moi, c'est un film qui s'inscrit nulle part dans le cinéma d'horreur coréen, si ce n'est dans ce qu'on va appeler une espèce de dystopie familiale, qui est un grand fleuve dans le cinéma sud-coréen. Mais en revanche, en termes de narration, en termes de mise en scène, on est pile à mi-chemin entre ce qu'on va appeler le film à twist américain. Donc, comme je l'ai dit, américain ou en tout cas occidental, parce que certes, on a le Shyamalan Universe, the Twist Gate, ce que va faire des gens comme notamment Amenabar avec les autres, mais par exemple c'est le cas de Vanya Sky, hein, qui a un remake d'un film d'Amenabar. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que Deux Sœurs, ça a une mise en scène, comme l'a dit Alexis, qui est très proche de la G-Horror, et notamment avec certaines figures de la G-Horror, qui est la gamine effrayante ou la femme effrayante, à savoir les longs cheveux noirs, un corps un peu distordu qui va être souvent filmé par des flashs. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient de The Ring, alors Ringu en japonais, parce que on a beaucoup, et moi la première, d'abord découvert la version américaine, qui n'est pas si honteuse que ça. Moi, j'aime pas trop, mais j'avoue que... En fait, je supporte pas le côté vert de Verbinski, mais c'est...
Il s'appelle Verbinski, si je peux me permettre.
On va pas se plaindre, moi, je connais pas Fushia Binski.
Et moi, je supporte pas son côté Binski, par ailleurs.
Bah ça va, donc, ouais, bah, à nous deux, on le supporte pas, en fait. Mais en fait, il va y avoir pareil dans The Grudge. En fait, c'est une figure...
On est en plein dedans.
On est en plein dedans.
Je t'interromps juste, parce que pour le coup, moi, c'est des films que j'ai découverts à l'époque, c'est-à-dire vraiment, et la claque que c'est gigantesque, la claque gigantesque, c'est que la découverte du J. Horror à la fin des années 90, au début des années 2000, quand on a été, qui plus est, biberonné comme moi, à la VHS, aux horreurs de Kevin Williamson, parce que c'est moi j'ai subi les Kevin Williamson. C'était pas rigolo à vivre à cette époque-là. Souviens-toi l'été dernier, blabla. Toutes ces Urban Legends, toutes ces merdasses.
On dit pas du mal d'Urban Legends dans ma présence.
Non, mais on peut dire du mal des gens qui l'ont fait.
Ça me va.
Et ce que je veux dire, c'est que d'un seul coup débarque d'abord le premier Ring, moi que je vois à l'étrange festival. Mm. Il y avait la nuit Ring, on a vu les trois d'un coup.
On a vu
Ring, Ring 2 et Ring 0. Je les ai vus dans une nuit à l'étrange festival. J'étais pas bien, j'étais pas hyper bien. Et puis voilà, et puis ensuite The Grudge, etc. Et donc d'un seul coup, on est en plein le début des années 2000. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'arrive Kim Ji-woon.
Oui.
Tout à fait, Nicolas, merci de me redonner la parole. C'est bien urbain de votre part.
Et du coup, là, ce que je vois, parce que pour le coup, je l'ai découvert très très peu de temps après sa sortie. La jaquette du DVD de Deux Sœurs est particulièrement...
C'était nul celle-là, excuse-moi.
Donc la couverture du DVD.
La jaquette, on y va.
La jaquette du DVD est particulièrement marquante avec ses deux petites filles ensanglantées en mode portrait de famille sur fond un petit peu moqueteux, comme peut une imagerie qu'a repris notamment l'orphelinat, Bayona. Enfin vraiment, il faut savoir que le début des années 2000, et notamment par l'accessibilité de plus en plus fluide des films grâce aux DVD, etc. Enfin vraiment, il y a un moment où peut-être même que le téléchargement a aidé, mais il y a eu une interconnexionnalité entre plein de cinémas très différents, et je trouve que c'est assez passionnant, même si tout n'est pas réussi.
Bah, peut-être pour donner à celles et ceux qui nous écoutent une petite idée, il faut voir à quel point en fait la vitalité des échanges a été s'est accélérée, à quel point il y a une croissance exponentielle des échanges entre cinéphilie, entre cinématographie. Par exemple, le premier, je crois que c'était The Killer, si je dis pas de conneries, mais le premier John Woo qui est montré en Occident, si ma mémoire est bonne, c'est à Cannes, c'est en 89, il sortira au cinéma en 94. Mmh. On était sur des tempos comme ça. Il pouvait y avoir des années entre le moment où un film, en l'occurrence là chinois, mais un film asiatique était produit, fait, sortait, faisait du bruit, et au moment où il arrivait sur le marché, et sur pas forcément beaucoup d'écrans. Mmh. Tandis que là, tout d'un coup, alors c'est pas aussi instantané que ça peut l'être aujourd'hui, mais on est ramené à quelques semaines, quelques mois, et surtout, voilà, les moyens de partager des films, DVD ou fichiers de téléchargement, sont bien différent et beaucoup plus facile à échanger.
Oui, et là, ce qui est assez intéressant, c'est parce que en effet, là, je l'ai revu pour l'émission, mais c'est un film que j'ai vu plein de fois de sœurs parce qu'il y a eu cette espèce de vibe dont je vous parlais, de film à puzzle, de film où il faut remettre les trucs dans l'ordre et où t'es partie active du scénario parce que t'as des indices partout, et puis en fait la mise en scène t'a donné des indices bien plus tôt, et je trouve que c'est quelque chose qu'on a perdu parce qu'aujourd'hui tous les films qui font des twists pour moi sont quasiment ratés. Mais là, de quoi ça parle, parce qu'on a on l'a évoqué le synopsis, mais ça parle quand même de Soo-mi et Soo-yeon, qui sont deux petites filles qui arrivent dans leur maison avec leur papa et leur belle-mère. Et il y a une hostilité qui se crée, il y a de la maltraitance infantile, il y a quelque chose de très étrange, il y a des apparitions, il y a clairement au tout début du film une image horrifique qui m'a traumatisée pendant de longues années et qui a été reprise par Mike Flanagan, qui est une espèce de jeune femme avec le cou tordu qui... en fait, est là déjà pour nous donner des indices sur ce qui s'est passé, pour parler au final, non pas que d'une espèce de satire, de famille recomposée, de mélange des traditions, mais pour nous parler de la psyché tordue d'une gamine. Et moi, en fait, j'en ai vu pas mal, même de la J-horror à l'époque, donc je dois voir le film pour la première fois, j'ai 15 ans, un truc comme ça. Mmh. J'ai déjà vu The Ring, j'ai déjà vu tout ça, j'ai vu les Shyamalan. Mais là, il y a un truc qui se passe en plus, c'est que j'ai l'impression d'être vraiment partie active. C'est que ça y est, le cinéma américain m'a plus ou moins donné les cartes pour lire le film, et celui-là, il me fait un puzzle. Et vraiment, il me dit, et en plus, au fur et à mesure, je vais te cacher des pièces à des endroits où tu le sais pas. En fait, il y a des moments où il va falloir que tu fasses attention à un détail, tu vas regarder sous l'évier une première fois, tu vas rien voir, et finalement, je vais te le remontrer. Et en fait, il y a un jeu dans le montage, dans la colorimétrie, dans la manière de filmer les visages ou les cheveux des gamines qui, en fait, sont signifiants. Et je trouve que le film est passionnant parce que c'est la première fois dans la dans une c'est très intéressant le premier film où un t'es pas tes codes habituels mais deux t'as l'impression de te prendre un espèce d'ovni sur la gueule et tu ressors t'es plus intelligent que quand tu l'as que quand tu l'as commencé en fait.
Je suis assez d'accord avec toi. Ça fait longtemps que je n'ai pas revu le film, mais il m'avait pas mal marqué. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il me semble que en fait les codes du cinéma d'horreur, mais pas que du cinéma d'horreur, de tout genre. C'est relativement simple à appréhender. T'as vu 3-4 très grands films, quel que soit le genre auquel ils appartiennent, t'as déjà une idée quand même assez précise, relativement précise des codes. On peut toujours aller plus loin, on peut toujours aller plus dans le détail. Mais voilà, les codes de cinéma, je veux dire, c'est pas la physique quantique. Et donc du coup, on peut mine de rien jouer à complexifier ou à nuancer tout ça de manière assez avancée. Or, on vous l'a dit, c'est un film qui s'approche beaucoup stylistiquement de l'horreur japonaise, alors que c'est un film coréen, donc on a déjà un premier mélange. Mais c'est aussi un film où Kim Ji-woon va beaucoup chercher du côté du cinéma d'horreur américain. Et moi, j'ai le sentiment, en termes de tempo et de style, qu'on n'est pas très loin d'un Sam Raimi. En termes d'intensité, de pulsation, et mélanger tout à coup cette énergie-là avec l'imagerie horrifique, donc on disait nippone, et aussi un truc presque un peu hitchcockien hein, dans la perversion, ça donne un mélange qui est à la fois extrêmement familier pour le spectateur qui aime ça, et en même temps qui est inconfortable et très imprévisible.
Très
parce
déconcertant.
Que... Mais oui, parce que ces codes ne se répondent plus comme d'habitude.
C'est intéressant de ce que disait Sophie, parce que c'est ce que dit hein, Kim Ji-woon pour Deux Sœurs. Les références qu'il invoque sont clairement celles de Shyamalan. Il parle de signes. Et il parle également, et plus de façon plus surprenante, de créatures célestes de Peter Jackson. Un commentaire, commentaire libre.
En fait, mais ce qui est intéressant avec avec Kim Ji-won, c'est que comme je pense beaucoup, hein, Bong Joon-ho et Park Chan-wook, il est très influencé par le cinéma américain. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas rien d'aller chercher comme influence Peter Jackson et surtout la partie néo-zélandaise du travail de Peter Jackson au moment où il n'est pas encore celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux et qui a conquis le cinéma populaire. C'est le Peter Jackson d'avant, celui qui s'essaye justement, qui commence dans un cinéma de genre hyper fauché et qui essaye de raconter des histoires différentes et d'aborder le cinéma d'une manière un petit peu révolutionnaire et hors des clous.
Et surtout avec le film avec lequel il veut donner des gages à Hollywood.
Exactement.
Qui est loin de ces films gore et qui est au contraire un film un peu fantastique, romantique.
Bien sûr.
Avec,
et puis,
c'est Kate Winslet,
dans Créature Céleste. Ouais. Et il va chercher comme référence aussi Shyamalan, en l'occurrence Signe, qui est pas du tout le Shyamalan que je préfère, mais qui est peut-être, à l'époque du moins, le Shyamalan le moins américain, entre guillemets. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très efficace dans Sixième Sens, tu vois, on sent une certaine efficacité classique d'accord. du studio hollywoodien, tu vois, c'est que ça, okay. c'est quand même une histoire qui progresse très vite, il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de tensions, on sent qu'on est face à un produit, c'est un vrai film d'auteur, mais c'est un film d'auteur qui reprend à son compte des éléments très commerciaux du cinéma d'horreur américain de l'époque. Effectivement, Simon a précisé ma pensée, il va chercher Signe, qui est un film quand même plus spécial, un peu plus, moins spectaculaire, beaucoup plus intime. Et en fait, je pense que c'est ça la petite particularité aussi de Kim Ji-won par rapport aux deux autres. C'est que Kim Ji-won, dans ses références américaines, et en tout cas anglo-saxonnes, il va chercher des œuvres spécifiques pour s'inspirer. C'est pas le grand cinéma populaire, là où Bong Joon-ho est un fondu du cinéma de Martin Scorsese, par exemple, ou de ces grands auteurs qui ont essaimé partout sur la planète. Kim Ji-won, il a des influences quand même un petit peu plus spécifiques.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Et on peut dire aussi que Deux Sœurs, je le disais au tout début, Deux Sœurs, c'est pas un film facile. C'est pas un film facile, c'est un film revêche.
Oui.
Mais on va en reparler, Alexis. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Deux Sœurs, il y a aussi du Mulan Drive. Il y a aussi du Lasvin Lynch. Il y a aussi, enfin, je veux dire, ça concrètement, oui. Le montage de Deux Sœurs, c'est le montage.
C'est un piège.
C'est un montage piège comme Mulan Drive, Sophie.
C'est ce qu'on. En fait, on a l'impression, et t'as bien fait de relancer là-dessus, c'est que quand. Il y a le film à twist et il y a le film à énigme. Il y a le film que tu ne peux lire qu'à la deuxième lecture et il y a celui qui te donne les clés à la fin. Et en fait, Deux Sœurs, il est pile au milieu des deux. Mm-hmm. C'est-à-dire que la deuxième lecture va te donner... En fait, la première lecture va te donner une réponse. La deuxième va te montrer les indices. La troisième va te l'expliquer. Et en fait, pour moi, ça, c'est le cinéma de David Lynch un peu. Mais c'est vrai que pour... Bon, il a cité Mulholland Drive, mais pour moi, il aurait pu citer Lost Highway aussi. On est sur le même genre de dynamique de lecture. Et c'est intéressant parce qu'il a cité, pour moi, que des films qui impliquent très directement le spectateur. Et c'est ça qui m'intéresse, en tout cas, dans Deux Sœurs. C'est non pas que l'implication émotionnelle. Je pense que l'implication émotionnelle, il est allé le chercher dans son matériau de base, qui est un conte coréen.
Oui, qui est un conte populaire, d'ailleurs oral, on l'a pas dit, mais... qui se transmet à l'oral et qui est vraiment un conte très très connu dans l'histoire vernaculaire de la Corée.
Et donc ça, pour moi, c'est l'ancrage émotionnel, c'est le côté familial, c'est le côté le rapport à l'enfance, qui est en plus un schéma, on l'a pas dit parce qu'on a parlé de The Ring ou même de The Grudge, mais en fait ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend l'image de l'enfance dans le cinéma d'horreur et des enfants dans le cinéma d'horreur, que ce soit en monstre ou en victime, et c'est je pense que la figure horrifique de l'enfant, quand c'est bien utilisé, ça peut plus facilement amener à une espèce d'alchimie parfaite entre la terreur et la peur infantile qu'on peut ressentir. C'est pour ça que j'aime autant le cinéma de Bayona, parce qu'il touche directement à la peur d'enfance, de l'enfance et des enfants. Et là, je trouve qu'il a reproduit ce schéma-là avec Deux Sœurs en utilisant un espèce de coming of age. Et sur une peur de la perte de l'innocence qui est assez fondamentale.
Pour rajouter des informations, ce conte donc s'appelle Jangwa et Hongryun. Je le prononce comme je peux. Je suis désolé si j'écorche. Si nous avons des auditrices de terre coréens, ça veut dire rose et fleur de lotus. Donc les deux héroïnes du film portent les noms de ces deux fleurs. Et ce qui est intéressant, donc, c'est effectivement un récit créé par un conteur anonyme qui a été transmis oralement au fil des siècles et qui est extrêmement populaire puisqu'il a été adapté à la télévision, sur scène et 5 fois au cinéma. Avant la version de Kim Ji-woon. Mais pour revenir, ça c'était vraiment juste pour la petite info, pour revenir à la complexité du film qui peut être très déstabilisante, Alexis, toi-même, tu l'as vu il n'y a pas très longtemps et c'est un film qui t'a un peu laissé en dehors. Comment tu l'expliquerais ?
Je l'expliquerais en disant que j'ai rien bité. Voilà, je pense que ça résume plutôt bien l'idée et je pense que c'est dû à deux raisons. La première, de toute façon, j'ai prévu de revoir le film, hein, donc je reviendrai peut-être sur mes propos, mais la première, je pense que c'est un film qui a quand même un tout petit problème de narration, à mon sens. C'est que je trouve que le film est peut-être un tout petit peu trop light dans sa confusion de point de vue. Il y a peut-être des moments où ça aurait gagné à être un petit peu plus tranché, de sorte à ce que j'ai vraiment ce truc que je peux avoir devant Sixième Sens, à savoir de « Oula, attends, là, il y a vraiment quelque chose qui cloche » et qui m'amène à me poser des questions sur ce que je regarde. Je trouve que ça arrive un peu tard dans le film, ce qui fait qu'au moment où ça arrive, j'ai beaucoup, beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues et ça devient un petit peu vertigineux. La deuxième raison...
Surtout pour aller dans ton sens, Alexis, pour préciser ça, pour les gens qui vont ou qui vont le voir, il n'y a pas de cohérence dans le fantastique dans ce film. C'est-à-dire que le moment où les points de vue changent, où on devrait arriver à ce qui devrait être une objectivation, en fait, cette objectivation, elle est aussi contaminée par le surnaturel. Et ça, c'est pas normal.
Oui, et il y avait
d'une certaine manière.
Oui, c'est ça. Le film brouille les pistes jusqu'au bout. Là où un film comme Sixième Sens, bon, bah, t'as cherché la clé de l'énigme tout le long du film, et à la fin, il te la donne sur un plateau d'argent et te dit maintenant, revois mon film avec la clé, quoi. Et c'est pas ce que fait Kim Ji-won. Mais je pense aussi que c'est dû, ouais, à la narration sud-coréenne. Les Sud-Coréens, et c'est ce qui fait de leur cinéma un cinéma unique et passionnant, hein, c'est, ils ont pas les mêmes codes de narration que nous. Je parlais tout à l'heure en intro de Memories of Murder de Bong Joon-ho. Memories of Murder, c'est un polar assez sombre, qui est centré sur la seule et unique histoire de tueur en série jamais répertoriée en Corée du Sud, et qui en plus à l'époque du tournage n'a pas été résolue, elle l'a été depuis. Mais pas à l'époque du tournage, donc c'est un film qui est très sombre, très angoissé, assez nihiliste, et puis au milieu, on a des sursauts de comédie burlesque slapstick, et quand on est un spectateur occidental, qu'on est habitué à Seven par exemple, on regarde Memories of Murder, on se dit, bah là je viens de voir un truc qui était drôle, pourquoi, alors qu'on est sur une scène de crime hyper sordide, et là d'un coup il y a Song Kang-ho qui met un énorme chassé à un flic, qui dévale toute la, tout le talus, et
tu fais le boy kick de l'histoire du
voilà,
film.
Voilà, on est bien d'accord, mais c'est très bien, pourquoi ça me dépersonne. Et en fait, non mais vraiment, et je me pose pas en infériorité non plus par rapport à ce cinéma là que je connais maintenant un petit peu, mais c'est un cinéma qui désarçonne parce qu'il n'épouse pas les mêmes codes de la narration que nous, et en l'occurrence, moi, Deux Sœurs m'a complètement laissé à côté narrativement. J'ai passé littéralement tout le film à me demander mais qu'est-ce qui se passe dans cette foutue maison, quoi ? Qu'est-ce que je vois ? Qui sont les personnages ? Qui est qui ? Parce qu'il y a des changements de rôle, il y a des réattributions de caractère. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et ça a été vraiment une expérience à la fois intéressante et en même temps hyper frustrante, mais je suis curieux de le revoir maintenant que je l'ai un peu maturé, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont me sauter à la tronche, mais je le dis pour les auditeurs et les auditrices, comprendre ce film et l'apprécier vous demandera peut-être, comme ce sera le cas pour moi, un deuxième visionnage.
Note pour plus tard, ou synchronisation des montres, il y a de fortes chances que ce soit le film de février de Hurlequin, de Sœur.
Wow, ouais. Intéressant. Est-ce que Kim Ji-woon sera là
avec
ses deux sœurs.
Avec ses deux sœurs. Sophie.
En fait, si je devais résumer la mise en scène du film, selon mon point de vue, mon humble point de vue, c'est que je me suis toujours dit que c'était un film sur la folie. Et c'est un film sur la folie provoquée par le deuil, filmé comme un film de boucle temporelle. Pour moi, il répond exactement au même code, à savoir je reprends une scène, je la redouble, je la triple, je la change de point de vue, je la remets en avant, je retourne dans le passé, je revis la même scène. Et en fait, j'ai vu pas mal de films de boucle temporelle qui sont un peu filmés comme ça, surtout quand c'est dans une même maison. Et ça a même, je pense, inspiré certains films de boucle temporelle, notamment The House of the End of Time, un film argentin. Parce que Sophie, au final, elle a vu des films d'horreur. Qui l'eût cru ?
On reparlera de When Evil Lurks. C'est Cuando Acecha la Maldad. Un film argentin qui a été primé à Sitges, que j'ai la chance de voir et qui est un film passionnant dont il y a beaucoup de choses à dire. Je pense à ça. Simon, vous êtes en face de moi et vous me souriez. Est-ce que ça veut dire que vous êtes heureux ?
En face de vous, je suis toujours heureux, Nicolas.
Oh, ils sont mignons.
Arrête, tu vas me donner des flatulences. Alors, tu voulais rebondir sur ce que disait Sophie ?
Non.
Pas du tout. Merci. Eh
bien,
merci.
Excusez-moi, je fais un petit... j'ai fait une erreur, ce n'est pas un film argentin, c'est un film vénézuélien.
Donc ma remarque n'a vraiment donc plus aucun intérêt. est-ce qu'on peut éventuellement parler ou incarner une scène qui vous a marqué, une scène importante, une scène qui pourrait donner une idée concrète finalement de s'attendre.
Moi j'en ai une, même si j'ai pas compris le film.
Vas-y.
Non, il y en a une qui m'a beaucoup marqué, et dans l'épisode de vendredi dernier, Simon parlait du cinéma horrifique sur des questions de tempo, et tu le comparais à la comédie, et t'as tout à fait raison, mais je pense même que le cinéma d'horreur, le film d'horreur est un genre musical. Dans le sens où il y a une musicalité, et en l'occurrence dans la musique, c'est vrai dans la musique comme dans le cinéma, la question c'est pas est-ce que les notes qu'on utilise ou est-ce que les accords qu'on utilise sont complexes, la question c'est à quel moment et à quelle intensité. Et si vous prenez le morceau, par exemple Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss, qui est l'ouverture de 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est un de mes morceaux de musique orchestrale préféré pour l'anecdote, c'est un morceau harmoniquement assez simple, c'est une progression, le tan 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 tan, voilà, bon, c'est relativement simple.
Tu le fais
la question
bien.
C'est à quel moment on va jouer, à quel moment on va pas jouer et à quelle intensité, c'est ça qui fait toute la magie du morceau. Bah là, il y a une scène qui est vraiment l'illustration, j'ai pas envie de dire scolaire, mais presque schématique tellement c'est éclatant de ce principe-là. Il y a un moment, il y a un personnage de femme qui va faire une espèce de syncope dans la cuisine, enfin dans la salle à manger qui débouche sur la cuisine de la maison, et elle est pliée en deux sur le sol, elle a la tête à l'envers et elle regarde sous l'évier de la cuisine. Et on a un raccord regard, on voit l'évier de la cuisine, on voit ce qu'il y a dessous, en l'occurrence, rien. C'est noir, on voit que dalle. Et la séquence d'après, elle explique qu'elle est dans la voiture et elle dit « Voilà, quand j'ai fait ma crise, j'ai vu quelque chose. » Et là, on revoit la même scène avec les mêmes plans, sauf que cette fois-ci, il y a un truc sous la cuisine. Rien que de vous en parler, j'ai la chair de poule, quoi. Et
c'est un des plus gros traumas pour plein de gens.
C'est l'illustration de ça. C'est l'effet est simple, élémentaire. C'est un champ contre champ, plan sur la personne qui regarde, plan sur ce qu'elle regarde. Sauf que la question, c'est pas est-ce que le plan est complexe ? Non, la question, c'est à quel moment le plan qui nous révèle quelque chose va arriver dans le montage du film. En l'occurrence, il arrive tellement au bon moment que c'est un effet de sidération viscérale qui est spectaculaire. Moi, je pense que c'est la scène qui m'a, pour le coup, vraiment scié sur place quand j'ai regardé le film, quoi.
Sophie ?
Il y a un moment... généralement, un twist arrive à la fin. Il se trouve que The Sœur, il en a plusieurs des twists. Et il y en a notamment un qui, je trouve, est assez convenu parce qu'on se dit, ah bah ok, ça, je l'avais plus ou moins vu venir parce que c'est un truc qui a déjà été fait, encore une fois, voilà. Sauf que, je sais pas, je peux spoiler, je peux faire une alerte spoil ou pas?
Alors, alerte spoil, attention, passez à 30 secondes, et quand vous entendrez ma voix, vous pourrez reprendre la lecture.
Ok. Donc, il y a une des sœurs qui hurle sur son papa pour lui dire « Mais écoute, ma belle-mère, en fait, elle fait que crier sur ma sœur, et puis elle est horrible, et puis elle la maltraite, et puis j'en peux plus, et puis c'est l'enfer », et elle lui hurle dessus. Et le père lui dit « Mais arrête, ta putain de sœur, elle est morte, en fait. Elle est morte, et normalement, dans n'importe quel film d'horreur, en fait, on aurait dû avoir une disparition de la deuxième sœur. Elle aurait dû se retourner, il n'y en aura plus. » Sauf que là, qu'est-ce qu'elle fait? Le fantôme, entre guillemets, de la sœur se met à pleurer. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à un esprit, et encore une fois, c'est même pas la moitié du film, un esprit qui se met à pleurer. On a de l'empathie parce qu'on ne sait plus ce qu'on regarde. On ne sait plus s'il a fait de la peine à un fantôme, si sa sœur a des pouvoirs surnaturels pour la voir, si...
C'est pas encore une manière de maltraiter à ce moment-là.
Mais complètement. Et ça, je trouve que c'est un effet... je crois que c'est sans doute le truc qui me rend le plus ouf du cinéma d'horreur coréen, tout confondu.
Vous pouvez reprendre l'écoute, vous avez entendu ma voix, vous pouvez reprendre l'écoute. Simon.
Alors moi, comme le souvenir est lointain, je vais citer deux choses. Une scène qui, me semble-t-il, arrive quand même très tôt dans le film, qui doit être la première apparition, on va dire ça comme ça. La première apparition d'entité slash femme au cou tordu slash, c'est horrible, qui arrive justement, si ma mémoire est bonne, très tôt, et qui est déjà très frontale, là où souvent le cinéma va bâtir un peu par étapes. D'abord, on va voir un bout de poil dans le lavabo, et puis on va entendre un petit truc qui frissonne, et puis, oh, Jean-Marc Morandini et alors que là, la première apparition est déjà, je trouve, de mémoire, encore une fois, ma mémoire est lointaine, mais crue, frontale, brutale, et me laisse à penser, quand je découvre le film à ce moment-là, elle me fait dire, oh là là, si on commence comme ça, et maîtrisé comme ça a l'air d'être maîtrisé, je sais pas où on va finir, mais ça va mal finir. Et enfin, un truc qui n'est pas une scène, qui est un élément, un choix narratif, tu l'as un peu dit, Sophie, alors c'est pas un spoil, c'est vraiment de base dans le film, ces deux sœurs, donc qui rentrent dans la maison familiale, ne vont pas être traitées de la même manière par leur belle-mère, et ne vont pas réagir de la même manière. Et ça, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas souvent. Vous savez, quand on a un récit avec des enfants qui vont souffrir les adultes, ils les souffrent parce que les adultes les traitent d'une certaine manière. Et là, ce truc d'un traitement différencié entre deux sœurs, marqué à ce point, vicieux à ce point, c'est quelque chose, c'est pas une scène en particulier, hein, c'est ce principe-là narratif. C'est un truc, moi, qui m'avait mis incroyablement mal à l'aise et qui m'avait vraiment... qui m'a mis très mal à l'aise dans le film.
C'est pour ça que Good Night Mommy, c'est nul. Mais...
Lucas. Oh.
Voilà, c'était pas bon ça. Écoutez, peut-être qu'on peut s'en tenir là pour Deux Sœurs. Deux Sœurs de Kim Ji-woon, c'est donc avec Im Soo-jung et Moon Jun-young. Ça ressort en salle actuellement grâce à Jokers et vous pourrez toutes et tous venir le voir vraisemblablement au mois de février pour une séance spéciale Hurlequin. Parce que c'est vrai que pour Hurlequin, on a assez peu exploré le cinéma asiatique et ça faisait longtemps que j'avais envie. Ce sera en plus une carte blanche à un auteur que j'aime beaucoup, qui est un grand grand fan d'horreur, qui s'appelle Jean-Baptiste Delamo, qui avait gagné le Goncourt du premier roman avec une éducation libertine. Et qui a fait un très bon... Bref, peu importe. Voilà, et vous, est-ce que vous êtes plutôt deux sœurs, trois frères, quatre papas, cinq mamans? C'est ce qu'il faut pour un enfant. Ah non, ça suffit. Hein. Ah non, hein. Mais pas recommencer les wokistes LGBT machin, là, gna 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 gna. Bon, merde. C'est l'heure de la carte blanche. Et que se passe-t-il dans la carte blanche? Eh bien, Simon parle très longtemps d'un film que personne n'a vu.
En fait, c'est réalisé par une chanteuse française moyenne.
Pas du tout. Tu nous parles d'une comédie aujourd'hui, Simon, puisque nous explorons bien à chaque fois la cinéphilie de l'un ou l'une d'entre nous. Et toi, tu vas nous parler de Zaz. Alors, non pas Zaz, mais Zaz.
Oui, même si aujourd'hui, le trio de metteurs en scène et scénaristes qui forment l'entité Zaz ressemble assez à Zaz. non, tout simplement, les Zaz, c'est quoi? C'est Zucker, Abraham Zucker, ce sont les initiales de ces trois artistes. Ils ont commencé, je vais pas refaire leur carrière depuis le tout début, parce qu'ils ont commencé, on va dire, dans l'humour, les sketchs en général. Leur premier film, leur premier long-métrage, j'en ai déjà parlé à peu près partout où on me tend un micro ou une oreille, c'est le Hamburger Film Sandwich. Son titre original américain, c'est le Kentucky Fried Movie. C'est un film à sketch qui imagine qui réimagine, qui parodie, qui pastiche un programme télévisé. C'est-à-dire que vous allez avoir des fausses pubs qui ont beaucoup inspiré les nuls, des fausses bandes annonces, un faux journal télé, un faux film du soir. Bref, c'est un chef-d'œuvre encore un peu méconnu qu'il faut absolument découvrir, qui à l'époque va pas être un énorme succès, mais qui va quand même être remarqué.
Qui je précise, est écrit par les As, mais n'est pas réalisé.
Oui, qui est réalisé
par
John Landis, exactement. Absolument. Mais néanmoins, c'est leur univers qui est déjà là, et c'est clairement, on peut dire que c'est leur premier film. Et enfin, il me semble qu'on peut le présenter ainsi. Après quoi, ils vont faire Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui va être le succès
chef-d'œuvre total.
Voilà, qui est un chef-d'œuvre total et qui va être le succès culte qu'on sait. Et puis après ça, alors ils tenteront de faire une série policière avec Leslie Nielsen qui va bider, qui est assez rigolote, c'est dommage. Et puis bah après ce bide-là, ils refusent toutes les propositions de suite qu'on leur fait.
Oui,
c'est ça. Non, c'est avant, Y a-t-il un flic. C'est une série policière.
Ah oui, après, Police Story. Oui, d'accord, je pensais que c'était
squad.
La série. Oui.
Police Squad, absolument. Voilà. Pardon,
et la série des Y a-t-il un flic est dérivée de Police Squad.
Voilà. Oui, Police Squad, Police Story, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Mais donc, ils refusent absolument toutes les propositions de suite qu'on leur fait de Y a-t-il un pilote. C'est pas le moment pour eux. Ils vont travailler pendant 2 ans. Et on revient avec Top Secret, qui est un pastiche de films d'espionnage, films de guerre froide et films de guerre, et qui est, je crois, sinon la première apparition à l'écran, en tout cas une des toutes premières apparitions de Val Kilmer. Val Kilmer qui est donc un espèce de chanteur à la Elvis, qui va chanter en Allemagne, en Europe, je sais plus si en Allemagne, j'ai un doute, en Europe, qui va tomber sur des néo-nazis un peu nostalgiques et qui va tout faire pour empêcher leur terrible complot de conquête du monde. Ça n'a aucun sens, c'est un niveau d'absurdité qui est remarquable. Il y a un poney qui chante, il y a une bataille de saloon mais sous l'eau.
Oui.
Il y a, que vous dire d'autre pour vous donner envie, il y a un usage des vaches qui à mon avis a dû influencer les créateurs d'une saga vidéoludique qui s'appelle Earthworm Jim. Ceux qui aiment les vaches volantes apprécieront. Si vous voulez, en gros, tout ce qu'il y a déjà, ce qu'il y avait déjà de merveilleux dans Y a-t-il un pilote dans l'avion et qui sera absolument incandescent de débilité géniale, tant dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine que les Hot Shots, par exemple. Ouais. Là, pour moi, avec Top Secret, qui pourtant était un gros bide, c'est vraiment le niveau stratosphérique. C'est incroyable. Il y a des idées toutes les 15 secondes qui vont tant de la parodie que vers le pur non-sens. Poney qui chante, c'est quelque chose. et vraiment, je vous recommande Top Secret. Et encore une fois, c'est une des meilleures batailles de saloon de l'histoire, du cinéma. Et pourtant, elle se passe sous l'eau.
Je pense que vraiment l'un des gags dont je ne me lasserai jamais, mais jamais, de ma vie entière et qui me fait toujours mourir de rire, surtout dès que je suis dans les conférences avec des micros cravates, c'est hop, attention les chaussures.
Oui, oui.
Ça, dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Quand
il va aux toilettes,
quand il va aux toilettes, qui pisse,
il a toujours son micro et dans un moment tout le monde l'entend pisser et là on l'entend dire attention.
Et qu'il lâche un énorme paix.
Oh oui.
Et en terminant attention.
Moi c'est la scène de sexe de Hot Shots.
Hot Shots 2 dans la voiture.
Non, c'est Hot Shots 1 où Charlie Sheen fait l'amour avec Valeria Golino. Et ils sont tellement transpirants que Charlie Sheen fait cuire des œufs et du bacon sur le dos de Valeria Golino.
Oui, absolument.
Incroyable.
Le film des As, non, pas particulièrement. Non, moi pareil, ça c'est aussi ma génération parce que y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. Tous les airplanes, ils étaient diffusés à la télé quand j'étais môme, mais j'ai vu 20 fois quoi.
Je l'ai vu assez tardivement parce que notamment je remercie le Grand Action de l'avoir repassé à un moment.
C'est super,
et
ça.
Donc j'ai découvert en salle, j'irais peu de temps avant le Covid et j'ai trouvé ça extrêmement drôle, mais je l'ai pas assez vu pour avoir des scènes en particulier dans la tête. Par contre, je peux vous citer tous les gags de la Cité de la Peur dans l'ordre.
Ouais, mais c'est les seuls vrais dignes héritiers des As, c'est les nuls.
C'est clair. Ouais. Et puis, je crois que c'est dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, où il y a littéralement une des blagues les plus scandaleuses, les plus osées de l'histoire du cinéma, qui est quand même la blague pédophile de ce.
Ah putain.
Dont tu dis, ouais. Mais même à l'époque, comment elle a pu passer, et qui est hilarante, avec ce passager qui dit à un enfant: est-ce que tu aimes les films de gladiateurs?
Est-ce que tu as été dans les vestiaires, etc. Ouais. Et en plus, c'est l'acteur qui jouait Jim Fells dans Mission Impossible, qui s'appelle.
Peter Graves.
Peter Graves, absolument. Et ce que vous ne savez pas, parce que donc c'était vraiment la grande époque de ces films qui passaient à la télé, que moi j'ai vu du coup à la télé avec mes parents, et ce qui me faisait mourir de rire, t'imagines le gag du pipi quand t'es gamin, c'est incroyable. Et surtout c'était l'époque où c'était la grande époque, puisque ça pastichait à l'origine les films catastrophes et donc les fameux Airport. Et n'oublions jamais qu'il y a Airport 80 Concorde avec Alain Delon.
Oui.
Oh oui,
ça je crois qu'un soir avec une bonne bouteille de rouge, on se fait un Airport 80 Concorde, les enfants.
Alors,
je reconstitue pour, je, je résume plutôt pour Sophie et pour les gens qui nous écoutent. La série des airports, ça fait partie, en gros, le premier airport a été au même titre que la Tour Infernale.
C'est 747 en péril.
Voilà, exactement. Etc. C'est des films catastrophes avec des castings hyper prestigieux où vraiment on fait tout péter pour faire rentrer de l'oseille dans les caisses d'Hollywood qui va pas très très bien à l'époque. et la série des airports, donc ça a donné une saga que parodie du coup, Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et le dernier volet de la saga, c'est Airport 80 Concorde avec Alain Delon. Et il y a une scène où il fait un looping avec le Concorde et il tire une fusée de détresse. Donc il ouvre la fenêtre du cockpit pour tirer une fusée de détresse parce qu'évidemment, oui, quand on veut s'aérer, on ouvre la fenêtre d'un avion supersonique en plein vol.
Ça a l'air
c'est un
nanar
cosmique extraordinaire.
C'est extraordinaire.
C'est un des plus grands films d'Alain Delon.
Avec Parole de flic.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà.
Non, ça, c'est avec Alain Delon. Hein. Bref, écoutez, revoyez Top Secret. Racontez-nous surtout en commentaire si vous avez vu ces films. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un flic? Les airports? Bref, on pourrait faire un épisode spécial film catastrophe. Moi, c'est quand même... C'est pour ça, hein, c'est de là que vient ma passion.
Je vais pouvoir parler de volcano.
Pour les films catastrophes.
Non, oh, mais je suis chaud pour qu'on fasse du catastrophe.
Ah, mais moi, j'adore ça. On en reparlera. On fera un épisode spécial, promis juré. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi avec le retour d'une incorse sur grand écran et indice, ce n'est pas un film de Christian Clavier. Allez, bye les amis et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.